liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 53, année 2015. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc. Semaine 53, c'est quoi cette arnaque ?
Oui, c'est ça, c'est les années un peu bizarres. J'ai même galéré, j'avais sorti un truc semaine 1, mais non, le 1er janvier est dans la semaine 53. Donc on va vous parler de ce qui s'est passé dans les derniers jours de l'année et les quelques premiers.
On a dit qu'on faisait une rétrospective juste avant Noël.
Oui, mais il y a quand même au moins une grosse news qu'on peut pas laisser de côté. Donc c'est celle à propos de Yann Murdoch et de Debian, qui nous touche quand même pas mal.
Clubic, Debian, la communauté en deuil après le décès de Yann Murdoch. Un article de Guillaume Belfiore.
Bon, Yann Murdoch, Yann, ça donne quoi ?
Bah, ça donne Debian, puisque Deborah était sa femme. Et donc, il a créé le. Donc, en 93, il a créé le fondateur du projet Debian, qui est aujourd'hui la distribution par excellence de GNU Linux.
Sur laquelle est basé Ubuntu.
Ubuntu hein. Et plein d'autres. Hein. Il y a eu énormément de dérivés là-dessus. Et donc, il est malheureusement décédé en fin décembre. Donc, il manquera et il sera regretté
à 42 ans.
À 42 ans, voilà. Donc, il a bien choisi son année. Mais bon, bah voilà, il manquera beaucoup à la communauté du libre. Il s'était très impliqué dans beaucoup de projets. Et donc, tout le monde le regrettera beaucoup, beaucoup.
Toi et moi, on est utilisateur Debian. Luc, tu vas être obligé d'y passer.
Enfin, il passait comme Yann Murdoch, c'est ça, non ? Bon. Voilà, l'article ne parle pas des conditions de sa mort et ça mérite quand même quelques éclaircissements.
Bah, notamment parce qu'on en a, il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus juste à la fin de l'année et à chaque fois, ils hésitaient sur qu'est-ce qu'ils allaient dire de cette mort un peu étrange. Et quand ils avaient des infos, ils avaient des infos dont ils n'étaient pas certains. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul.
Ouais, le truc, c'est notamment que sur Twitter, ils disaient qu'il était harcelé par la police et des choses comme ça, quoi.
Il y a eu le jour de sa mort, en fait, il y avait une série de tweets où personne ne savait s'il était bourré ou pas, s'il blaguait, qu'est-ce qui se passait. Mais en gros, il y a eu une série de tweets sur apparemment une altercation avec la police et il menaçait de se suicider, etc. Et donc, on pensait que son compte Twitter avait été compromis ou autre, mais voilà, personne ne savait ce qui s'est passé. Et puis, on a appris la triste nouvelle le lendemain. Et je sais pas s'il y a eu des positions plus officielles là-dessus, mais
la famille, il demande à ce qu'il soit tranquille, hein, parce que c'est vrai que c'est un truc triste, et qu'en gros, il avait déjà des problèmes depuis quelques temps.
Ouais, donc des problèmes psychiatriques, donc a priori, c'est effectivement un délire, et ça l'a amené au suicide, malheureusement. Donc, c'est quelqu'un qui a monté Debian, et on peut parler un peu du projet Debian, parce que c'est vraiment au-delà du fait qu'il est en termes logiciels super important, en termes d'organisation, en termes humains, c'est aussi un modèle.
Déjà, il y a le contrat moral de Debian, en fait, qui a posé les bases de ce que devait être Debian, donc en le respect du logiciel libre, en essayant de supprimer le maximum de dépendance au logiciel privateur, un paquet qu'une fois qu'il est intégré dans Debian, enfin, il y a vraiment des restrictions assez fortes à mettre en place, de la qualité de code aussi, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses là-dessus.
Tout ça basé sur une communauté mondiale, alors c'est beaucoup des admin systèmes qui à l'origine étaient peut-être en amateur, mais qui aujourd'hui sont des professionnels. Il y a des milliers de gars qui bossent sur Debian en permanence pour eux-mêmes et pour leurs clients ou des fournisseurs divers et variés.
Tout le monde n'est pas payé pour contribuer à Debian, mais certains le font professionnellement. Souvent, leur entreprise utilise Debian et du coup va financer un développeur parce que comme ça, ils ont l'assurance que la partie qui les intéresse est bien faite. Et comme y a des gens de tous horizons, personne ne peut vraiment mettre la main dessus. Une des choses très impressionnantes dans Debian, c'est que c'est une démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une constitution, il y a des modes de recrutement extrêmement serrés et rigoureux. Pour rentrer dans le projet Debian, c'est pas facile. Quelqu'un qui est un développeur Debian,
super galère.
Voilà, c'est quelqu'un qui en général va avoir une certaine aura parce que ça prouve qu'il est très bon et qu'il est passé par ces modes de recrutement. C'est très 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 rigoureux. C'est vraiment, à ma connaissance, le seul projet qui fonctionne de cette façon-là.
Bah, à ce niveau et à cette taille, hein, l'équivalent quelque part en termes de distribution, c'est Red Hat qui est sur un autre modèle complètement différent d'entreprise.
Voilà. Et puis surtout la grosse différence, c'est Debian a réussi à quasiment intégrer tous les logiciels qui existent aujourd'hui. Il y a des paquets Debian pour à peu près tout et n'importe quoi. Red Hat, c'est plus des logiciels pour le business, pour les pros ou autres.
Là, on est vraiment dans le cadre d'un éditeur professionnel classique.
Très professionnel, alors que Debian est vraiment tout usage, il y a vraiment de tout dedans et tout le monde y trouve à son bonheur, les développeurs, les simples utilisateurs, les professionnels.
Toutes les architectures, hein, les gros serveurs comme les petites machines, hein, donc ça peut tourner sur des téléphones, il y a des dérivés de Debian qui existent à droite et à gauche, qui tournent sur des petits trucs et c'est une distribution pas forcément facile à prendre en main, mais qui s'adapte à tout le monde.
ZDNet, logiciel libre, partage des connaissances, liberté, n'oubliez pas les dons aux associations, un article de Thierry Noisette. Merci à Thierry Noisette.
Oui, parce qu'il reprend alors en grande partie ce qu'a mis Benoît Cibot sur LinuxFR et des choses qui nous intéressent parce qu'il parle des associations, des différentes organisations du libre et d'autres libertés globalement qui ont en général besoin d'argent, comme l'April, qui a besoin que vous alliez sur april.org/campagne, magnifique site fait par quelqu'un très compétent, bien sûr, et là, vous verrez ce qui qui se déroulera. On va vous saouler encore un peu avec Star Wars, mais c'est pour la bonne cause. Et il y a beaucoup d'autres associations qui ont des besoins, là aussi, ponctuels ou récurrents. En général, récurrents, il ne faut pas se leurrer, des Wikipédia, des Framasoft, qui ont des besoins de dons et d'adhésion de gens qui vont venir les supporter financièrement, et puis par d'autres moyens, bien sûr.
Il y avait aussi quelque chose d'intéressant, c'est les dons sont déductibles des impôts, en tout cas pour pas mal d'associations, sauf pour certaines, parce qu'elles grattent trop le gouvernement. Les associations qui dérangent un peu trop, on leur donne pas cette fameuse 66% de réduction d'impôts.
C'est le propos porté par Benoît Cibot qui rapporté dans cet article-là.
Voilà, et donc, malheureusement, l'April gratte un peu trop, et donc on n'est pas déductible des impôts, mais bon, vous pouvez quand même donner, ça fera toujours plaisir.
Newsyland.net, Linux, logiciel libre pour régime totalitaire, un article de Philippe Crousillac.
Enfin, des gens qui ont bien compris l'intérêt du logiciel libre dans un état bien ordonné.
Voilà, donc c'est vrai que c'est assez surprenant, mais en gros, la Corée du Nord, qui est un régime totalitaire par excellence...
En même temps, est-ce que l'un d'entre vous est déjà allé en Corée du Nord?
Ouais, je suis pas sûr, on serait pas là pour en parler. On serait pas là pour en parler si on avait pu y rentrer.
On va te payer un billet, tu vas voir.
Tu vas aimer le...
Non, vous exagérez, je connais quelqu'un qui est parti en Corée du Nord, on est revenu. Voilà. Non, c'est vrai.
Au bout de combien de temps?
Non, c'est parti là-bas pour bosser un petit peu. Et c'est quand même un des pays avec une des plus belles dictatures de la planète, avec culte de la personnalité. Enfin, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Et ils se sont fait leur propre distrib. Ils sont partis sur des bases de logiciels libres pour faire leur propre système d'exploitation verrouillé et de surveillance absolue.
Ah oui, donc nous, on est pour l'ouverture, et etc. Et Linux était censé être pour ça à la base.
On est content qu'ils utilisent.
On est content qu'ils s'en servent, mais vu ce qu'ils en ont fait.
Voilà, une base de Red Hat, donc ça part pas si mal. Ils ont fait un OS qui s'appelle Red Star, qui à l'origine ressemblait, d'après ce qu'ils expliquent, à Windows, mais étant donné les goûts justement de leur gourou, ils ont fait en sorte que ça ressemble énormément à Mac. Parce que c'est la classe, quoi, j'imagine. Ouais.
Et puis bien sûr, ils ont rajouté plein de systèmes de surveillance dedans, on n'a absolument pas la main sur son système, on a le droit de faire absolument rien du tout, tous les fichiers qu'on pose dessus sont fliqués, tracés, modifiés pour qu'on sache que ça vienne de vous si jamais ça se retrouve sur Internet, ou que ce soit diffusé, enfin voilà, c'est le bon régime totalitaire par excellence, à partir d'un OS libre, c'est quand même
ça démontre
assez
qu'on peut faire ce qu'on veut avec du logiciel libre et qu'il y a de l'intérêt quand on a un projet aussi pourri et dégueulasse soit-il, que en parlant du libre, on part pas de zéro et que du coup on peut faire des grandes choses grâce à des briques libres, y compris des choses dégueulasses.
Après, la grande question, c'est est-ce qu'on pourra poursuivre Kim Jong-un pour violation de la GPL
devant un tribunal nord-coréen, bien sûr, pas de problème. Voilà. L'Obs, Edward Snowden, celui qui s'en est sorti, une tribune de Jeremy Zimmerman.
Alors Jeremy Zimmerman, qu'on ne présente plus, hein, parce qu'il a été bien connu à l'April et après à la Quadrature du Net.
Tu vas le faire quand même.
Ouais. Ouais, y a pas vraiment besoin, je crois. Tout le monde l'a à peu près plus ou moins vu au moins une fois sur Internet ou autre.
Ou à la télévision, il peut.
Ou à la télévision, il était assez charismatique et assez grande gueule. Et là, donc, il fait une rétrospective sur le parcours d'Edward Snowden. Comment il en est arrivé là, par où il est passé, qu'est-ce que ça a changé un peu dans la société. Et donc voilà, ça montre un peu ce qu'il est devenu aussi aujourd'hui, qui est très médiatisé et qui pourrait même potentiellement rentrer en politique vu le nombre de personnes qui peut avoir derrière lui.
Il en est régulièrement question, hein, ou de l'héberger en Europe, par exemple, parce qu'il a besoin d'être soutenu un peu dans son combat face à la plus grande puissance qu'on ait aujourd'hui. Donc c'est compliqué, et justement c'est ce qui remonte, c'est que lui, il s'en est sorti, parce qu'il y en a d'autres qui ont aussi levé des problèmes, réveillé un petit peu, qu'est-ce qui se passe à la guerre, qu'est-ce qui se passe à différents endroits, mais eux, ça s'est pas forcément aussi bien passé. Il y en a qui sont en prison, il y en a d'autres qui sont fliqués à vie, ils ont des galères.
C'est le cas, donc il la cite de Chelsea Manning, hein, qui a changé de sexe, qui était Bradley Manning à l'époque, qui était dans l'armée et qui a fait fuiter des informations, notamment sur une bavure qui avait été menée, je crois, en Irak, où un hélicoptère a flingué des civils et un journaliste. Et effectivement, il s'est fait avoir parce qu'il a laissé des traces sur son ordinateur quand il a donné ses informations à des journalistes. Donc voilà, il rappelle un peu toutes ces histoires, c'est assez intéressant. Sur cette question de Snowden en politique, je sais pas trop ce que Jérémy a derrière la tête. Je sais qu'il est assez provocateur et qu'il va lancer des trucs, mais qu'en général, il a des idées derrière et qu'il attend qu'on vienne le contredire. Donc il a peut-être des infos là-dessus. Mais sachant que Snowden, s'il met les pieds aux États-Unis, il part direct en prison, qu'il est coincé en Russie, voilà, je vois pas trop comment il pourrait s'investir en politique dans la position dans laquelle il est actuellement.
On attend de l'héberger en France.
Non, moi j'attends avec impatience. Ils vont lui dire oui, tu peux bien sûr candidater pour les présidentielles. Faut aller placer ta candidature.
Voilà. À l'ambassade états-unienne.
On t'attend.
En Russie.
Rue 89 Bordeaux, le web libre tisse sa toile en Gironde. Un article de Xavier Ridon.
C'est le résultat d'un passage au CCC.
Donc fin décembre, comme tous les ans, se tenait donc le Chaos Computer Congress, qui est un grand rassemblement de hackers à Hambourg. Donc ils refont l'intégralité du palais des congrès de là-bas.
Est-ce que l'un d'entre vous deux y est déjà allé?
Non, malheureusement, j'ai pas pu encore y aller. J'espère bien y aller l'année prochaine.
C'est vrai que ça peut être intéressant. On en parle beaucoup. On connaît des gens qui y vont régulièrement. 12 000 personnes qui se retrouvent dans ce genre d'endroit, donc que ce soit en hiver ou en été, ça a l'air d'être très attrayant quand même.
Voilà.
Il paraît que c'est très impressionnant.
Voilà, c'est assez énorme. Et donc là, bah, dans le lot, il y avait pas mal de petits gules du coin, donc les groupes du logiciel libre.
Donc voilà, c'est donc, plus qu'un gule. Hein, il cite notamment un hackerspace du côté de Bordeaux, et qui a l'air quand même d'être un gros machin. Quand même.
De toute façon, pour aller là-bas, généralement, c'est des énormes. Donc il y a le LabX qui est un Fab Lab, il y a Akilnet qui était en fait un fournisseur d'accès associatif, la fabrique Pola, enfin voilà, il y en a tout plein qui passent dans le lot. Donc là, il est présent en fait, et ils ont tous pour être caractéristiques d'être de la Gironde. Et donc, bah voilà, ça fait un peu le listing de tous ceux qui étaient présents là-bas, avec il y a de tout, il y a du Fab Lab, de l'internet.
C'est pas que des libristes ou pas des libristes pur jus, quoi.
Voilà, il y a un peu de tout. Il y a vraiment. De toute façon, c'est assez hétérogène, le 32C3 ou 33C3 l'année prochaine. Et donc, bah voilà, si vous avez l'occasion de venir un jour faire un tour à Hambourg, on vous y accueillera avec plaisir. Parce que c'est quand même assez génial comme événement.
Nous, tu veux dire, le jour où on y va, quoi.
Voilà, le jour où on y va. Bon, allez, on se donne rendez-vous en 33C3 l'année prochaine. On fera une revue de presse de là-bas.
Très bien. Bon, bah, c'était la dernière revue de presse de l'année dernière. J'ai perdu le fil, c'est trop compliqué.
Ouais, ça devient compliqué cette année, les histoires de semaine. On va compter en binaire l'année prochaine.
Voilà, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse.
En espérant qu'il y ait des meilleures nouvelles. Hein. Moi, je suis encore tourneboulé par la disparition de Yann Murdoch. Hein. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres bonnes choses. Peut-être la fin d'Adopi, on peut rêver aussi, tu vois.
Ouais, il a l'air de mourir en plus, donc on verra bien.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vinault.